Oui, mon Dieu, nous te demandons de nous aider à comprendre ce que tu veux nous révéler, ce que tu nous as laissé dans ce livre, dans cette Bible. Et merci d'avoir aidé Arnaud dans cette préparation. Nous prions, Seigneur, que au travers de ces paroles, soit toi qui puisses parler et parler à nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire vraiment. Et que tu nous révèles ce que tu veux, Seigneur. Dans le nom de ton Fils. Amen.
Voilà, merci, Jonathan. Après ton ordinateur, c'est ta voix qui a failli planter. D'ailleurs, je me disais que parfois le Seigneur nous met gentiment à l'épreuve. Quand on préside un culte et puis qu'on se prépare à parler de la joie et de la paix et que son ordinateur plante et qu'on se retrouve sans support, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement la joie et la paix qui nous animent. Ou pareil, ou dans mon cas, visiblement, le plus jeune de nos fils a attrapé une gastro. Et cette nuit, nous bataillons contre les symptômes de la gastro. Et pareil, dans ces cas-là, c'est pas la joie ou la paix qui nous anime. C'est un peu ça. Et heureusement, tu l'as précisé, la joie profonde de connaître le Seigneur, eh bien, ne dépend pas des circonstances. Et heureusement. Heureusement. Alors, c'est vrai, j'ai décidé de centrer la prédication sur la joie, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Noël. Mais au fond, que dire qui n'est jamais été dit ? Tout le monde connaît Noël. L'enfant Jésus dans la crèche, les mages, les bergers, on l'a lu, relu ce matin. Bref, Noël et toute l'imagerie qui va avec, imagerie plus ou moins juste. Et quand le prédicateur que je suis apprend qu'il va prêcher pour la fête de Noël, eh bien, il peut avoir des motifs de crainte, au fond. Il peut trembler pendant sa préparation. Parce qu'au fond, quoi dire de neuf sur Noël, sur un événement qui date de plus de 2000 ans ? Alors, rien. Il ne peut rien dire de neuf. Tout a été déjà dit. Et c'est vrai que j'ai rien de nouveau à dire sur Noël. Et pourtant, est-ce que ça veut dire que vous pouvez rentrer chez vous ? Et puis, non, bien sûr que non. Parce que nous avons tous, eh bien, une grande capacité d'oubli. Et je crois que c'est bien de revenir à ce message essentiel qu'est Noël. Et puis, il y a un point, moi, qui m'impressionne dans la parole de Dieu et qui m'émerveille aussi. Même si je connais un passage, même si je le connais par cœur, eh bien, parfois, une lecture nouvelle, eh bien, me fait apparaître une nouvelle idée, une nouvelle chose, un nouvel aspect des choses. Et c'est vraiment là, entre guillemets, la magie de la parole de Dieu et sa profondeur. Alors, je vous propose de lire un texte que Stéphano a lu en partie. Jonathan avait choisi de lire dans l'évangile de Luc, j'ai choisi de lire dans l'évangile de Matthieu, qui sont les deux évangiles où on retrouve particulièrement le récit de Noël. Et je vous propose de prendre l'évangile de Matthieu à partir du verset 18 dans le premier chapitre. Voilà, et on va relire un texte un petit peu long, mais qui est nécessaire pour bien se remettre, eh bien, au fond, dans la vérité du message de Noël. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit Joseph, fils de David, « N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils, qu'il appela du nom de Jésus. Après la naissance de Jésus, à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où elle était, où était l'enfant, pardon, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà. Et ma prière ce matin est bien est que, quelle que soit votre connaissance des choses de la foi, quel que soit là où vous en êtes avec Dieu, eh bien ce que je vais partager à partir justement de ce texte eh bien, puisse toucher votre cœur. Alors quoi dire effectivement sur Noël? Et j'ai choisi de concentrer ma prédication sur un des versets de ce texte que je viens de lire. Voilà, si tu veux l'afficher. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils éprouvèrent une très grande joie. La joie est aussi présente dans l'évangile de Luc, dans l'évangile que Jonathan a lu. Et au chapitre 2, verset 10, il est dit, c'est le verset que j'avais mis en introduction, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Et les bergers, comme les mages hein, du récit de Matthieu, eh bien, sont dans la joie lorsqu'ils apprennent la naissance de Jésus. Et j'ai choisi ces versets parce que, vous l'avez compris, ils parlent particulièrement de la joie. Et la joie est tellement importante dans nos vies. Et nous parlons souvent de la joie de Noël, en oubliant parfois le sens, justement. Et la joie, c'est ce que nous recherchons tous. Hein, c'est la quête, au fond, de chacun d'entre nous, être heureux. Et c'est ce que nous espérons pour nous-mêmes, ce que nous espérons pour nos amis, pour nos enfants. Et nous essayons d'élever nos enfants pour qu'aujourd'hui, eh bien, pendant leur enfance, leur adolescence, ils soient heureux. Et les préparer aussi à ce qu'adultes, eh bien, ils soient aussi dans la joie. Et le message de Noël est justement centré sur la joie. La possibilité de ressentir de la joie, d'être dans la joie. Lorsque des parents attendent une naissance, eh bien, ils se réjouissent par avance de la naissance qui approche, de l'enfant qui va arriver dans la famille. Et en quelque sorte, les bergers et les mages étaient dans cette attente de cet heureux événement. Et les Juifs de cette époque attendaient la naissance de Jésus, attendaient l'arrivée du Messie. Et les prophètes avaient annoncé son arrivée. Ils attendaient le Messie, qui signifie « envoyé ». Ils attendaient l'envoyé de Dieu. Mais ils ne savaient pas à quelle date la prophétie allait se réaliser. Le texte que nous avons lu cite le prophète Ésaïe. « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Ésaïe, dans l'Ancien Testament, eh bien, a fait cette prophétie-là, qui se situe à peu près 700 ans avant la naissance de Jésus. Eh bien voilà, c'est fait. L'enfant est né dans une étable à Bethléem. Et les mages et les bergers ont trouvé l'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous », comme on l'a lu. Et dans ce nom, eh bien, il y a la raison de la joie des mages et des bergers. Par la naissance de Jésus, Dieu est avec nous. Est-ce qu'on s'en rend bien compte, au fond, de ce que ça veut dire ? Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui domine sur toutes choses, eh bien, est avec nous. Les mages le savaient, les mages l'avaient compris. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, ils étaient dans la joie. Les mages ont ressenti de la joie lorsqu'ils ont vu l'étoile, lorsqu'elle s'est arrêtée. Est-ce que vous aviez remarqué dans ce texte que l'étoile, eh bien, s'est arrêtée ? C'est quelque chose que moi j'ai redécouvert en lisant ce texte. L'étoile s'est arrêtée. Et mes amis, eh bien, la bonne nouvelle de Noël, eh bien, c'est que l'étoile s'est arrêtée. Et j'imagine que les mages ont marché dans la direction de l'étoile et constaté chaque nuit, eh bien, qu'elle avait bougé. Et je les imagine aussi se dire qu'ils avaient encore à marcher. Encore du chemin à parcourir. Combien de nuits encore à marcher? Et on ne sait pas combien de temps, au fond, a duré leur marche. Mais ils marchaient de nuit pour pouvoir voir l'étoile. Et puis, une nuit, ils ont constaté que l'étoile s'était arrêtée. Elle avait cessé de se déplacer. Et peut-être que l'un des mages a dit « Ça y est, l'étoile ne bouge plus. Nous sommes bientôt arrivés. Nous n'avons plus besoin de la suivre. Nous n'avons plus besoin de la poursuivre. Nous arrivons à notre but. » Ils peuvent être dans la joie. L'étoile s'est arrêtée. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils savent maintenant où est le roi des Juifs, où est le Christ. la joie et plus généralement le bonheur sont des choses qui sont à la mode. Et ça sonne aujourd'hui comme une injonction. On se doit d'être heureux. Nous devons être heureux. Soyez heureux et malheur aux malheureux. C'est un peu ce que l'on entend. Et c'est normal après tout. Qui chercherait le malheur? Mais cela nous entraîne parfois dans une course au bonheur. Et parfois, cela nous pousse à courir après de fausses étoiles. Et on peut se dire que je serai heureux ou plus heureux le jour où je posséderai telle ou telle chose, ou lorsque j'aurai accompli tel ou tel projet. Et les recettes du bonheur, quand on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure, ne manquent pas. Par ailleurs, d'une façon générale, la publicité nous donne à voir un modèle où il faut consommer pour être heureux. Pardon. Et la Bible nous dit que nous ne trouverons pas la source de la joie en nous-mêmes, ni en ce que nous faisons, même si bien sûr et heureusement, parfois c'est agréable. La Bible nous dit que la source de la joie est en Jésus-Christ. Et je trouve que le parallèle intéressant entre notre parcours, lorsque nous cherchons le bonheur, lorsque nous cherchons la joie, est celui des mages. Nous courons aussi après une étoile. Et parfois, dans les moments difficiles de notre vie, nous pouvons avoir le sentiment de marcher dans la nuit, à chercher l'étoile. Alors peut-être que ce matin, vous êtes en marche, comme les mages, lorsqu'ils ont été à la poursuite de l'étoile. Et la bonne nouvelle de Noël, que le jour de la naissance de Jésus, l'étoile s'est arrêtée. Christ est venu sur terre. Fin de la course. Je peux me réjouir et aller jusqu'à Jésus, qui est lui la source de la vraie joie. Les mages et les bergers étaient dans la joie parce qu'ils ressentaient qu'un événement incroyable était arrivé. Dieu, créateur du ciel et de la terre, a décidé de venir nous rejoindre en la personne de Jésus, Emmanuel. Dieu avec nous. Et l'étoile nous y mène. Et comment nous réagissons, au fond, lorsque nous voyons cette étoile qui mène à Jésus? Cette étoile est au-dessus de nous, cette étoile nous guide et elle nous attire vers l'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette étoile nous invite à élever notre regard, à aller jusqu'à Jésus-Christ. Que l'on soit chrétien ou pas, nous avons tous, chacun, à nous poser cette question. Quelle est mon étoile aujourd'hui? Où se porte mon regard? Qu'est-ce qui guide ma vie? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Il y avait beaucoup d'étoiles dans le ciel qui ont pu attirer le regard des mages. Et ils ont choisi la bonne étoile, celle qui mène à Jésus. Et de la même façon, nous aussi, choisissons la bonne étoile pour être dans la joie. Et la conviction des chrétiens, justement, est que la bonne étoile est celle qui mène à Jésus, à l'enfant Jésus. L'autre bonne nouvelle est qu'aujourd'hui encore, l'étoile brille. Elle ne s'est pas arrêtée de briller. Elle brille aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, elle peut nous guider vers le Christ. Elle peut nous guider vers Jésus. Et cette étoile, elle s'appelle la Bible, qui nous révèle qui est Dieu, qui est Jésus, celui qui nous aime. Et l'avantage d'une étoile, est qu'elle se voit de loin. D'où que l'on soit, on peut la voir. Et cela signifie que quel que soit notre parcours de vie, l'étoile brille pour nous et nous guide vers Jésus, dans la crèche, dans l'étable. Les mages s'attendaient-ils à trouver ce qu'ils ont trouvé? Un bébé dans une étable? Probablement pas. Ils sont d'abord allés à Jérusalem, nous dit le texte, dans un palais, où normalement, c'est là où aurait dû naître Jésus, dans un palais. Le Fils de Dieu aurait dû naître dans un palais, pas dans une étable. Mais Dieu, souvent, il est là où on ne l'attend pas. L'étoile a guidé les mages vers la pauvreté et le dénuement d'une étable, vers un petit enfant. Et nous faisons parfois une mauvaise image de Dieu, une fausse image. Dieu est souvent là où on ne l'attend pas. Il aurait dû naître à Jérusalem, comme les mages l'ont pensé, il est né à Bethléem. Il aurait dû naître dans un palais, il naît dans une étable. Il aurait dû naître fort, il naît fragile, un enfant, un nourrisson. Et si je prends une machine à remonter le temps et que je vous emmène avec moi et que je vous projette à cette époque, qui d'entre nous, au fond, oserait rentrer dans ce palais pour rencontrer Jésus, si Jésus était né dans un palais? Nous n'y sentirions pas forcément à notre place, et peut-être même qu'il y aurait des gardes qui nous empêcheraient l'accès de ce palais. Mais qui aurait peur d'entrer dans une étable? Qui aurait peur d'un bébé? Il naît enfant, il naît dans une étable, il naît petit parmi les petits. Et cela permet à Dieu de nous rejoindre dans la faiblesse de notre humanité, de se rendre accessible à chacun d'entre nous. La joie de la rencontre avec Jésus est possible pour chaque personne. Tout le monde est invité, absolument tout le monde. Et cette étoile brille encore aujourd'hui. Elle brille au-dessus de l'humanité et elle continue de nous guider vers cette étable de Bethléem. Dans le texte, on a vu qu'elle accueillait les mages. Dans la version de l'évangile de Luc, elle accueille aussi les bergers. Aujourd'hui, en fêtant Noël, eh bien, nous rappelons cette rencontre, au fond, entre les hommes et l'enfant Jésus, dans cette étable. Et ces hommes présents à cette époque, les mages, les bergers, eh bien, représentent l'humanité. Et plus généralement, eh bien, dans cette étable, c'est une rencontre entre l'homme avec un grand H et Jésus. Et encore une fois, la bonne nouvelle de Noël, eh bien, est que cette étoile continue de briller, que nous pouvons nous aussi aller dans cette étable pour rencontrer Jésus. Tout se passe comme si l'étable de Bethléem était suffisamment vaste pour accueillir toute l'humanité. Nous sommes ce matin ces mages, nous sommes ces bergers. Dieu aime être là où on ne l'attend pas. Les mages s'attendaient à ce que le Fils de Dieu naisse dans un palais, je l'ai dit, un lieu digne de lui. Ils s'attendaient sans doute à rencontrer une manifestation de la puissance et de la magnificence de Dieu. Et là, surprise, ils rencontrent un nourrisson dans une étable. Et nous y voyons là une manifestation de l'amour de Dieu. Le Fils de Dieu est accessible à tout le monde. Personne n'est exclu. Tout le monde est digne de rentrer dans une étable. Ce n'est pas logique qu'il naisse dans une étable. Comme je l'ai dit, il aurait dû naître dans un palais. Mais la logique de Dieu n'est pas la nôtre, et heureusement. Jésus est venu sur terre pour rencontrer chaque homme, du grand au petit, et il n'est pas venu rencontrer une élite. Alors posons-nous la question ce matin, que l'on soit chrétien ou non. Quelle étoile je suis en train de suivre? Est-ce bien celle qui mène à Jésus? Est-ce que je suis conscient que cette étoile, eh bien, s'est arrêtée pour que je puisse rencontrer Jésus? Je n'ai plus besoin de parcourir une route, l'étoile s'est arrêtée. Je ne cours après plus rien, l'étoile s'est arrêtée, je peux entrer dans la joie. Et dans les deux textes, l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, il est question de la joie. Les mages ressentirent de la joie. Dans l'évangile de Luc, l'ange dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » C'est écrit devant vous. Et cette étoile, eh bien, c'est comme un carton d'invitation, en fait. Et cette invitation, elle est personnelle. Les mages et les bergers sont dans la joie d'avoir rencontré l'envoyé de Dieu, Christ, Jésus-Christ. Est-ce que je suis moi dans la joie ce matin, malgré l'ordinateur qui plante, malgré la nuit difficile? Est-ce que je suis dans la joie? Et il y a une condition préalable, je crois, à la joie. C'est la paix, justement, être en paix. Et l'ange commence à dire aux bergers, n'ayez pas peur. Et je ne peux pas être dans la joie si je ne suis pas dans la paix. Je ne peux pas être dans la joie si j'ai peur. Dans l'évangile de Luc, les anges qui ont annoncé aux bergers la venue de Christ le proclament. Paix parmi les hommes en qui il prend plaisir. C'est ce que Jean nous a rappelé dans sa prière aussi. Je ne peux pas être dans la joie si je ne suis pas en paix. Alors, il y a plusieurs niveaux de paix. Il y a bien sûr la paix qui existe entre les hommes, le contraire du conflit. Et cette notion est particulièrement importante aujourd'hui dans la région de Bethléem, ville qui est située en Cisjordanie, un confetti de terre palestinienne au milieu d'Israël. Mais à mon niveau personnel, je ne peux pas y faire grand-chose. Mais d'une manière plus modeste, est-ce que moi je suis en paix avec les personnes qui m'entourent? Mais il existe un autre niveau de paix, un niveau de paix qui est plus profond, et c'est la paix intérieure. Et c'est de ce niveau de paix, au fond, dont je vous parlais ce matin. Être en paix. Mon cœur est-il en paix ce matin? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sera difficile pour moi d'être dans la joie, si je ne suis pas en paix, d'être dans la joie de manière durable. Être en paix est la condition nécessaire et indispensable pour être dans la joie. Et certains d'entre nous ont du mal à être en paix, à avoir un cœur en paix. Des rancœurs, des blessures mal cicatrisées, des peurs, des colères empêchent parfois certaines personnes d'être en paix avec eux-mêmes. Et je suis moi-même issu d'une famille où beaucoup de ses membres traînent des blessures de l'enfance, ce qui nourrit comme un feu intérieur. Et parfois, c'est qu'une petite flamme, et parfois, c'est un embrasement de colère, un embrasement de haine même parfois. Et ces blessures, ces colères, eh bien, les empêchent d'être pleinement en paix. Comme s'ils vivaient, au fond, avec un frein à main, serré, vraiment serré à fond, et qui les retient d'entrer dans la joie. Et je peux témoigner que le Seigneur, lui, m'a donné la paix. C'est ce qui fait que je suis devant vous voilà, ce matin. Être en paix, qui nous permet d'être dans la joie. Les mages, on l'a lu, eh bien, ont apporté des cadeaux à l'enfant Jésus, de l'or, de l'encens. Mais l'enfant Jésus, lui-même, c'est lui qui est venu avec les cadeaux. Il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec la paix et il nous l'offre ce matin. Il nous offre la possibilité d'être en paix avec nous-mêmes et donc aussi en paix avec les autres. Et au fond, ce qui me permet d'être en paix, eh bien, c'est qu'en réfléchissant au message de Noël, je comprends que Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu inaccessible, mais que ce Dieu-là, eh bien, il m'a rejoint en venant sur la terre dans une étable de Bethléem et qu'il me dit « Viens, j'ai fait le chemin jusqu'à toi, Maintenant, c'est à toi d'accomplir ta part de chemin. Et rejoins-moi, entre dans la paix, entre dans la joie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'étable de Bethléem, eh bien, elle est aussi vaste, elle est tellement vaste qu'elle peut accueillir chaque homme, toute l'humanité. Je comprends aussi en lisant les évangiles que la venue de Jésus sur terre est une formidable preuve d'amour de la part de Dieu. Et d'ailleurs, d'une façon générale, toute la vie de Jésus est une succession de preuves d'amour de Dieu, jusqu'à la crucifixion sur la croix et ensuite sa résurrection. Mais ça, c'est la suite de l'histoire et nous verrons ça quand nous fêterons Pâques. Pour l'instant, on est à la naissance de Jésus. Mais une fois que j'ai compris que Dieu m'aimait, lui qui est créateur du ciel et de la terre, lui qui domine sur toutes choses, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Rien ne peut me toucher. Même un ordinateur qui plante, même une mauvaise nuit, encore une fois. Alors bien sûr, ça n'exclut pas les périodes de fatigue, les périodes de tristesse, les moments difficiles, même de souffrance. Le fait d'être chrétien n'est pas une assurance contre la souffrance. Mais je sais que Dieu m'aime et que rien ne pourra me séparer de mon amour. Et je vais utiliser une image, alors j'en ai utilisé déjà plusieurs, mais il m'arrive parfois, moi aussi, Jonathan, de perdre des données informatiques. Comme si les dossiers disparaissaient de mon disque dur. Alors c'est gênant, mais au fond, ce n'est pas très grave. Comme je fais des sauvegardes régulières, je récupère le dossier que j'ai perdu. Et bien parfois, ma vie est à l'image de cet ordinateur. Il plante. Et tout ne fonctionne pas comme je voudrais. Je rencontre des difficultés. Mais je sais que la relation d'amour que j'ai avec le Père, eh bien, elle est sauvegardée dans un disque dur que rien ne peut altérer, que rien ne peut détruire. Et même si je perds tout, eh bien, rien ne pourra encore une fois effacer l'amour du Père qu'a pour moi le Père. Et je voudrais, pour terminer, et avant de conclure, par ce verset que certains d'entre nous connaissent, si vous êtes habitués de la lecture de la Bible, dans Romains 8, à partir du verset 38. « Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, c'est-à-dire ni autorité, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Alors pour conclure, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de bruit autour du sens de Noël, beaucoup de fausses étoiles. Il faut savoir tendre l'oreille vers la bonne source pour entendre dans le tumulte eh bien, le message, le murmure de messages d'amour porté par Noël. Et l'on peut se poser effectivement, comme c'est écrit sur notre devanture, on peut se poser la question de ce que nous avons fait de Noël. Ce message d'amour m'apporte la paix parce que je me sens et je me sais aimé de Dieu, d'un amour infini que rien ne pourra altérer. Cette paix et cet amour eh bien, me fait entrer dans la joie. L'amour, la paix, la joie, comment pourrais-je m'en passer? J'en ai tellement besoin pour vivre. L'amour, la paix, la joie, eh bien, elle fait naître en moi, ces trois notions-là font naître en moi l'espérance. Et l'espérance me fait regarder l'avenir avec confiance, en sachant que mon Dieu sera toujours là, à côté de moi, quoi qu'il m'arrive. Et cela vaut la peine que j'aille à sa rencontre, dans l'étable, où il y a de la place pour moi. Et terminer avec ce verset, justement, de Romains 15, Romains 15, verset 13, dans le Nouveau Testament. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. » Amen. Je vous propose de terminer par un moment de prière. Oui, c'est vrai, Seigneur, qu'il est parfois difficile de reconnaître l'étoile qui mène à toi, dans toutes ces étoiles qui brillent, ces fausses étoiles, qui nous font rechercher le bonheur, mais un bonheur qui est superficiel. Seigneur, l'étoile qui mène à toi, eh bien, mène à la joie profonde et durable, la joie de Noël. Et ma prière ce matin, eh bien, que nous puissions pleinement entrer dans la joie de Noël, nous rapprocher de toi. Merci Seigneur parce que tu nous accueilles dans cette étable. C'est toi qui es venu avec les cadeaux, Seigneur. Le cadeau de paix, le cadeau de joie, le cadeau d'amour. Et Seigneur aussi un cadeau d'espérance. Amen.